Jérôme Bertrand et Étienne de Vara, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour et bonjour à vos auditeurs.
Bonjour à tous.
Alors, vous allez nous parler du service catholique des funérailles, mais auparavant, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Je vais commencer, je suis Jérôme Bertrand. Voilà, j'ai 62 ans, je suis marié avec Perrine, on a 7 enfants et les petits-enfants arrivent les uns après les autres. Après une carrière dans la marine, j'ai reçu mission de monter le service catholique des funérailles du Var, donc une coopérative de pompes funèbres d'inspiration catholique, elle ne s'en cache pas, sur l'appel initial de Gilles Robèche, la responsable de la pastorale du deuil ici au diocèse de Toulon, et puis en lien bien sûr avec Christiane Cacret qui a créé le premier service catholique des funérailles à Paris en 2000.
Et moi, je suis Étienne de Vara, donc la relève, je dirais. Et je suis plutôt. J'ai fait un petit début de carrière dans le bâtiment. Et mon parcours de vie a fait que j'ai dû côtoyer les pompes funèbres. Et j'ai été intrigué par ce métier un peu de l'ombre. Et dans une recherche de sens, m'est revenue cette idée des pompes funèbres plusieurs fois dans mon petit début de carrière. Et dernièrement, un alignement des étoiles m'a fait arriver à Toulon, au service catholique des funérailles.
Alors peut-être une première question que peuvent se poser nos auditeurs. Qu'est-ce qu'un service catholique des funérailles? Quelles sont les particularités par rapport à d'autres services des funérailles?
Je vais prendre la question, si vous voulez bien. Alors, donc, un service catholique des funérailles, c'est d'abord une entreprise de pompes funèbres. Là, des statuts divers qui peuvent être associatifs ou coopératifs, mais c'est donc une entreprise de pompes funèbres, de professionnels. Il y a une exigence, bien sûr, de compétences, de respect de la loi, d'obtention des diplômes nécessaires pour exercer ce métier, cette mission. Et cette entreprise de pompes funèbres a deux particularités fondamentales. La première, c'est que le statut de ces structures est un statut gestion désintéressée. En clair, on ne distribue de dividendes à personne. Et la deuxième, c'est qu'elle a une inspiration catholique qui est claire et exprimée. Alors, ça veut dire quoi? Géographiquement, aujourd'hui, le service catholique des funérailles propose ses services en région parisienne, Paris, Versailles, Boulogne, à Bordeaux, en région lyonnaise, à Lyon, Villefranche, Saint-Étienne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille, Aix-Arles, Toulon, Fréjus, Nice. Vous voyez, c'est à la fois une réelle fédération, mais ce n'est pas une grosse chaîne. D'ailleurs, le but, ce n'est pas de se mettre en position de rivalité avec les autres pompes funèbres, mais juste d'incarner notre place à leur côté, en témoignant d'une manière particulière de faire, peut-être un peu détaché de l'air ambiant. Nos priorités, c'est clairement de servir les familles, c'est de porter l'espérance par notre attitude, être le plus naturel possible. On se veut une personne aux côtés des gens en deuil, qui apporte notre expertise et notre compassion, mais sans prendre la place des personnes en deuil. On s'appuie sur la richesse de l'enseignement de l'Église et de son rituel, de ses rites. Et enfin, dernier point que je voudrais préciser, service catholique des funérailles, il s'appelle comme ça, il ne s'appelle pas service des funérailles catholiques. Ce que je veux dire par ce jeu de mots, c'est que on n'est pas le service par lequel doivent passer les catholiques ou le seul service prétendument adapté à faire des funérailles catholiques, mais on est des catholiques qui proposons nos services à toutes les personnes en deuil. Maintenant, on pourrait prolonger un petit peu pourquoi cette aspiration, pourquoi ce besoin-là, ressenti par Christian de Cacré il y a plus de 20 ans maintenant. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit point de la caractéristique de notre société face à la mort. Au tout début de mon engagement, j'ai entendu une dame qui venait me voir pour la mort de son papa de 92 ans et qui m'a dit Ah ben non, on ne sait pas comment on veut faire parce qu'à vrai dire, on ne s'y attendait pas. Récemment, une autre me disait, au moment de la mort de sa maman, Vous savez, j'ai jamais vu un mort de ma vie. Voilà, ces deux phrases, elles illustrent pour moi un des traits dominants de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que elle écarte la mort de son quotidien, de ses pensées. On va entendre régulièrement des gens nous dire, Ne me parle pas de ça. Non, non, mais je veux pas y penser. Voilà, on veut vivre sans penser à la mort. On l'a écarté de notre environnement physique, géographique. On a des gens funéraires à l'écart des villes, loin des domiciles. Soit on se signe, dans l'histoire, on représente toujours des gens qui font un signe de croix quand ils vont passer un corbillard. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à tourner la tête de l'autre côté quand on voit passer un corbillard. Et dernière caractéristique, on ne veut pas voir la mort. Hein. On entend souvent aussi, je ne veux pas le voir, je veux garder le souvenir de lui vivant. Enfin, tout ça, c'est l'expression d'une... Je vais être un peu méchant, mais une certaine politique de l'autruche face à la mort. On fait semblant que ça n'existe pas. Et du coup, on voit souvent des gens arriver dans les pompes funèbres avec une grande déstabilisation face à un événement auquel elles ne sont pas préparées, ni moralement, ni même matériellement. Elles ne savent pas ce qu'elles vont faire.
Pourtant, la mort est la seule certitude que nous ayons dans la vie.
Eh bien oui, et c'est quand même très paradoxal, mais c'est comme ça. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas facile à aborder des perspectives qui nous déstabilisent. Il faut un certain courage. Et en même temps, comme vous le dites, il n'y a qu'une chose dont on est sûr, c'est ça. Et une attitude un tout petit peu responsable, positive, si on se met à l'écart et qu'on réfléchit sur soi-même, nous amène à dire, bah, il faut bien que j'y pense quand même, il faut bien que je le prépare. D'ailleurs, je fais un petit message de pompe funèbre, hein, j'incite vraiment les gens à préparer leurs obsèques, à y réfléchir. C'est un moment là encore pas forcément facile, mais réfléchir, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux être enterré, est-ce que c'est dans la ville où je vis, est-ce que c'est là où sont enterrés mes parents, est-ce que pour moi la solution c'est une crémation, est-ce que je veux que... rester à mon domicile après mon décès ou au contraire aller justement dans une chambre funéraire dont je parlais. Tout ça représente une démarche qui est importante pour soi-même parce que ben voilà, ça nous aide à nous mettre devant cette réalité. Et puis aussi collectivement, parce que ce n'est pas les conversations qu'on a plus facilement avec son mari ou sa femme, avec ses enfants. Et pourtant, je suis témoin de nombre de fois où ces discussions ont été d'une fécondité extraordinaire, singulièrement de parents vers enfants, parce que ça aide chacun à faire le point et à exprimer à l'autre concernant mon amour pour toi, mon besoin pour toi, ce que je souhaite pour toi, et comment je vais vivre sans toi pour ce qui est des enfants et qu'est-ce que je veux te laisser pour ce qui est des parents. Alors ça, c'est une démarche qui est pour moi très très riche. Pour peu qu'elle ne s'arrête pas à une démarche financière, je mets tant d'argent de côté et qu'on va un peu plus loin sur le sens. Et je rajouterai un dernier mot, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien, qui nous a dit un jour, pour moi, une crémation et puis vous répandrez mes cendres où vous voudrez parce que je ne veux pas vous embêter avec ma tombe. Et sa famille lui a répondu « Mais on a envie de s'embêter avec ta tombe. » En clair, c'est un besoin pour nous. Et je vois souvent des gens qui font des cadeaux empoisonnés en fait, à leurs enfants, en décidant pour eux de ce qui est bien, en étant trop modestes, j'ai envie de dire, en considérant trop qu'ils ne comptent pour rien, alors que les enfants ont besoin de manifester que leurs parents, que leurs amis, leurs grands-parents ont compté et sont des gens importants dans leur vie. Alors pour comment est-ce qu'on peut servir ça? Nous, on va essayer, par exemple, de mentionner, non pas d'inciter, c'est pas le mot, hein, mais de mentionner la possibilité de garder un défunt à domicile, comme je l'ai exprimé. La société d'aujourd'hui a tendance à l'écarter naturellement et parfois aussi à ne pas vouloir, quand on est pompe funèbre, à pouvoir prendre de risques ou s'embêter ou même à faire marcher ces fameuses chambres funéraires dont on parle. Donc c'est une possibilité, garder un défunt à domicile, elle n'est pas du tout imposée, parfois elle n'est pas du tout adaptée, il ne faut surtout pas prétendre contraindre les gens à le faire. Mais ceci dit, ça existe et je vois souvent des familles à qui on en parle qui ont une première réaction de surprise, ah c'est possible, c'est légal, c'est pas dangereux. Et puis ensuite, on discute un petit peu. Et parfois, elles vont prendre la décision de le faire, parfois de ne pas le faire, parce que ce n'est pas leur possibilité ou les circonstances adaptées pour elles. On va souligner l'apport que représente la visite aux défunts. C'est un temps, là aussi, pas forcément facile. Je n'ai pas envie, forcément, de me retrouver devant le corps de celui ou celle que j'aime. Mais d'un autre côté, cette visite va m'aider beaucoup parce que dans ma tête, que face à un deuil, il y a une partie de mon cerveau qui est on va dire objectif et qui dit je sais que, je vais dire au hasard, papa est mort. Et puis j'ai une autre partie de mon cerveau qui est complètement subjectif et qui lui refuse cette réalité. On entend souvent les gens dire je pensais que j'allais me réveiller, j'aurais voulu dire ça, je vis un cauchemar. Et la visite au défunt va nous aider parce qu'elle nous touche à la fois dans notre cœur, parce qu'on le voit, et dans notre intelligence, parce qu'on est bien obligé de constater qu'il est décédé. Ça va nous aider à nous unifier et puis peut-être à vraiment faire le point de l'importance de cette personne pour moi et de ce que je peux faire. On va souligner aussi que chacun a besoin de faire son deuil. Ça veut dire non seulement le mari ou la femme ou les enfants, c'est ceux qui sont en première ligne, bien sûr, mais parfois d'autres personnes, d'abord les gens de les belles-filles ou des filleuls ou des amis intimes. Et j'aurai une mention particulière pour les enfants. On peut avoir tendance, on entend parfois des gens qui vont écarter les enfants en disant c'est pas leur place, tu comprends, il faut les épargner, il faut. Alors que cet écart représente souvent pour des enfants, même jeunes, la base d'un vrai traumatisme qui est beaucoup plus important que si on leur avait tout simplement dit, ben voilà, ton grand-père, ta grand-mère est aujourd'hui morte. Alors ensuite, on va trouver les mots qui sont adaptés pour ne pas mentir sur cette réalité, tout en n'étant pas trop violent par rapport à ce que peuvent supporter les enfants. Voilà, c'est un sujet qu'on pourrait développer à l'infini, tellement notre société aujourd'hui est un peu en difficulté, voire incohérente, j'oserais dire, face à cette réalité de la mort, cette réalité implacable, comme vous l'avez souligné, et en même temps, cette réalité qu'on ne veut pas regarder.
Est-ce qu'il y a certaines particularités dans des deuils? On pense par exemple à la perte d'un enfant. Est-ce que il y a des choses particulières dans ce cas-là, un accompagnement particulier des proches?
Bon, c'est une question bien sûr très difficile. D'abord parce que c'est une douleur infinie et c'est une situation de scandale au sens c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à admettre. Hier, je parlais de la mort prochaine d'une de mes tantes et la personne à qui j'en parlais me disait mais tu vois, je sens bien que c'est le moment. Il y avait une grande peine, une grande déstabilisation et en même temps au fond de notre cœur, il y a une certaine réalité qui s'impose. Ben, oui, mais c'est le moment. Concernant la mort d'un enfant, bien sûr, il n'y a pas cette réalité. Au contraire, on se dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de souffrance plus grande que de perdre son enfant, je pense. Une maman qui perd son enfant, pour moi, elle acquiert une intimité exceptionnelle avec la Vierge Marie, avec laquelle elle partage cette douleur infinie de la perte de l'enfant. Et tout l'enjeu pour nous chrétiens, c'est qu'elles vivent aussi dans l'espérance qui a animé la Vierge par rapport à cette douleur infinie. La mort d'un enfant est effectivement, du point de vue psychologique, du point de vue du deuil à faire, un sujet tout à fait particulier. Et je ne saurais trop inciter dans ces cas-là à se rapprocher d'un certain nombre d'associations qui sont porteuse pour essayer de partager d'abord cette douleur et ensuite d'aider un petit peu les gens à refaire le point. En revanche, bien sûr, il n'y a pas de réponse simple. Pourquoi cette question si difficile restera sans réponse cartésienne, c'est une évidence. Et le deuxième point, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'organiser les obsèques et de vivre pleinement les obsèques d'un enfant. Je vois des réactions différentes face à ça. Il y en a qui vont générer des cérémonies extrêmement importantes, avec beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire, beaucoup de témoignages. Et puis d'autres, au contraire, qui ont tendance, surtout quand c'est des tout petits bébés, à vivre ce deuil dans une espèce d'intimité, voire à faire comme s'il n'y avait pas eu de naissance. Et ça, je pense, c'est C'est une démarche qui peut avoir des conséquences très mauvaises pour la reconstruction après ce drame. Maintenant, nous, Pompes Funèbres, on n'est pas des psychologues par rapport à tout ça. Notre rôle premier, ça va être de tenir la main des gens, ça va être d'essayer de leur parler dans la douceur, une douceur infinie, de leur expliquer ce qu'on peut faire et ne pas faire, et de les laisser exprimer ce que eux veulent faire ou ne pas faire, parce que ce sont bien les parents qui sont qui doivent prendre la main, qui doivent décider ce qu'ils veulent faire, ce qui correspond à ce qu'ils sont, hein, et à leurs besoins. J'ai un exemple tout récent, il y a un couple qui est venu me voir après la perte d'un bébé dans le ventre de sa maman. Et on les avait orientés, je suis pas sûr que ce soit volontaire d'ailleurs, vers une hypothèse de crémation. Ma démarche a été d'abord de les écouter, de les faire parler, de leur écouter, de leur exposer ce qui était possible de faire ou pas, à la fois au niveau légal, au niveau matériel, au niveau du calendrier, au niveau des démarches administratives, et puis aussi de leur évoquer la possibilité, non pas de faire une crémation de ce petit bout, mais de l'enterrer. Et tout à coup, j'ai vu la lumière s'allumer dans leur cœur, dans leurs yeux, parce que ils ont sauté sur cette possibilité parce qu'ils n'y avaient pas pensé. Et clairement, c'était ça qu'il leur fallait. Vous voyez, donc face à un enfant, pour nous, Pompes Funèbres, eh bien, c'est être très doux, c'est exposer et c'est surtout laisser les parents faire leur chemin.
Et justement, concernant le fait d'enterrer un défunt de manière plus générale, je crois que c'est un besoin que l'homme a ressenti dès la préhistoire.
Non seulement c'est un besoin que l'homme a ressenti dès la préhistoire, mais les paléontologues font la différence entre un primate et un homme et un être humain sur le fait qu'il trouve ou pas des rites funéraires. C'est la caractéristique de l'homme, le rite funéraire, hein. Je crois que c'est une réalité qu'il faut qu'on garde en tête pour bien réaliser l'importance de ces rites. Il ne faut pas confondre le rite funéraire avec le fait d'enterrer ou pas, ou d'avoir une crémation ou pas. Dans l'histoire, les rites ont été très différents suivant les civilisations, les époques, et même dans une même société. Mais en revanche, c'est cette caractéristique qu'a l'homme de ne pas considérer que le corps de son congénère est un déchet, mais que ce corps doit du respect. Quand on est chrétien, bien sûr, on pense à la phrase le corps temple de l'esprit. Temple de l'esprit, on ne peut pas le jeter comme ça, mais indépendamment de tout aspect de foi, c'est un besoin profond de l'homme et c'est une réalité profonde de l'homme. Et du coup, peut-être pour terminer ce témoignage initial, ça m'amène à vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, cette mission de Pompes Funèbres. Parce que le premier point auquel je pense, c'est la vérité, c'est le travail dans la vérité. Face à cette réalité de la mort, les masques tombent, quoi. On est forcément dans la vérité. Dans notre vie courante, on joue toujours plus ou moins un rôle. On dit qu'on est heureux quand on n'est pas tout à fait. On se plaint alors qu'on n'a pas de raison de se plaindre. Enfin, bon, on a toujours un rôle à jouer. Dans la mort, les masques tombent. Que ce soit ma réaction personnelle, la qualité de l'unité de la famille, mes moyens matériels, mon espérance, tout apparaît au grand jour. Le deuxième élément que m'a apporté cette mission, face à ce besoin de l'homme de rite funéraire, c'est une évidence que l'action de celui qui va côtoyer la famille est utile. Étienne disait tout à l'heure une recherche de sens dans son métier. J'entends énormément de gens autour de moi qui me parlent de cette recherche de chance. Ben moi, j'ai vécu pendant 10 ans la chance extraordinaire de jamais me poser la question, est-ce que ce que je fais est utile? Parfois c'était lourd, parfois c'était difficile, je ne vais pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille, mais en revanche, la question de l'utilité ne s'est jamais posée. Et puis il y a quelque chose de plus profond aussi, c'est que le fait de côtoyer la mort physiquement, le fait de les voir, ça permet aussi de rentrer naturellement dans cette réalité dont vous parliez tout à l'heure, cette évidence qu'un jour ou l'autre, je mourrai. Et donc, cette finitude m'amène à dire un mot qui est important, c'est celui de la transmission. C'est un mot qui est cher à ma femme, qui le dit souvent. C'est transmission, qu'est-ce que nous avons à transmettre ? Il y a bien sûr des éléments de patrimoine, mais il y a d'autres éléments plus immatériels. C'est l'histoire de notre famille, c'est dire à nos enfants, à nos petits-enfants, d'où ils viennent, savoir illustrer ce que sont les souvenirs qui sont autour d'eux, que ce soit des photos, d'autres objets, des lettres, des documents. Mais c'est aussi leur passer, leur transmettre ce à quoi on croit face à cette réalité si importante qu'est la mort. C'est quoi ma foi, hein ? Et enfin, mon dernier mot sera de dire que cette finitude, elle nous incite aussi à dire aujourd'hui ce qu'on a toujours tendance à reporter à demain, et ne serait-ce que d'exprimer ses sentiments. Dire je t'aime, dire merci, dire pardon, féliciter, dire tu es beau, dire t'as de la valeur, dire je crois en toi. J'entends trop souvent des gens qui me disent oh, j'aurais tant voulu lui dire ça, j'aurais tant voulu lui demander ça. Et ben voilà, c'est mon message à vos auditeurs. Ben, dites-le lui aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait. J'ai peut-être trop parlé, je vais passer la parole deux secondes à Étienne, toi qui arrives pour la deuxième phase de la vie du service catholique des funérailles du Var. Tu vas en prendre la responsabilité. Je ne sais pas ce qui t'amène ici.
Je ne peux pas ajouter beaucoup, beaucoup plus de choses que tout ce que tu viens de nous décrire et de nous partager, qui est évidemment un témoignage très fort. Ce que je peux dire, c'est vrai que le service des funérailles au sens large du terme, on y arrive rarement par hasard, hein, que ce soit au sein de notre service ou les autres personnes dans la profession. C'est des parcours de vie à chaque fois assez spécial. À titre très personnel, moi, ça me permet en plus de revenir sur mes terres toulonnaises, où ma femme a vécu. Et du coup, je découvre depuis déjà 3-4 mois la richesse de cet accompagnement, centré donc autour des défunts, mais aussi et surtout des familles endeuillées. Et c'est vrai que cette richesse, elle vient évidemment de plusieurs endroits, mais notamment de la pluralité des familles rencontrées. Je suis assez étonné. On rencontre, c'est vrai, des familles ancrées dans la foi, d'autres moins, des familles relativement aisées, d'autres plus en difficulté, certaines encore très soudées, d'autres largement divisées. Mais quel que soit le scénario qui nous est imposé pour le temps des obsèques, on met vraiment toute notre disponibilité et notre énergie au service de ces familles, et en rentrant dans une intimité extraordinairement rapide avec ces familles. Je me posais la question, mais je ne suis pas arrivé à trouver une profession ou un endroit où on peut rentrer aussi rapidement dans cette confiance et dans cette intimité. Alors c'est une confiance qui est à bâtir, hein, parce que, comme le disait Jérôme, c'est en douceur, en extrême douceur, que l'on doit venir se mettre au service des familles et construire cette confiance. Néanmoins, on entre en effet dans cette intimité très rapide et extraordinaire avec ces familles, et qui pour moi est source de grandes... c'est une chance, donc on essaye de faire très attention, mais de grande joie en tout cas.
Jérôme Bertrand, Étienne Devara, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
Bonjour Monique.
Oui, merci. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour vos deux prestations qui sont vraiment capitales. J'ai une question à poser. Si l'on désire conserver le corps de notre défunt au domicile, qui s'occupe des préparatifs de ce corps qui n'aura pas forcément transité par l'hôpital ? Et quels sont ces préparatifs ?
Alors, je vais répondre sous un plan de la loi et ensuite du concret. La loi autorise ce qu'on conserve un corps d'une personne décédée à son domicile ou dans n'importe quel domicile, hein, qu'on le laisse à son domicile. Et elle autorise aussi qu'on ramène à domicile le corps d'une personne qui soit décédée ailleurs. Dans tous les cas, il faudra, la loi ne l'impose pas, mais par contre, en tant que pauvre funèbre, je dis, il faut le faire, faire ce qu'on appelle des soins somatiques, d'un métier très particulier qu'on appelle les thanatopracteurs, qui viennent et qui font un travail sur le corps de la personne dans un double but de bien le présenter pour qu'il soit apaisant à l'œil, pour qu'il soit détendu et pour qu'ils aident, pour que ce travail aide les gens qui viennent se recueillir à être eux-mêmes apaisés. Et il y a une deuxième partie de ce travail qui va, de manière très schématique, aboutir à retarder l'action de la nature pendant le temps nécessaire entre le décès et les obsèques. Ces soins, ils peuvent être faits à domicile si le décès est survenu à domicile. Ils doivent être faits dans un laboratoire si le décès est survenu ailleurs. De manière très simple, ça dure à peu près une heure. Il faut que les caractéristiques de la pièce dans laquelle on va le faire soient suffisamment larges pour qu'on puisse le faire. Il y a quelques contraintes, mais ça, les professionnels les connaissent. Donc, c'est tout à fait possible. Ça doit être aussi être accompagné d'un peu de prudence. Parfois, on n'est pas égaux face à la maladie, on n'est pas égaux face aux difficultés concernant nos corps avant notre mort, et les corps des morts ne sont pas non plus égaux face à ces soins. Donc il peut arriver exceptionnellement que des soins ne soient pas aussi efficaces qu'on puisse le faire, c'est tout à fait exceptionnel, mais dans ces cas-là, il y a aussi des solutions qui permettent de les régler. Oui.
Oui, vous avez signalé tout à l'heure que le service catholique, il y en avait un à Bordeaux. Moi, j'habite à 200 km de Bordeaux, je ne sais pas si à ce moment-là, parce que j'avais souscrit, pour moi personnellement, j'avais souscrit une assurance ici, vous voyez, il y a une quinzaine d'années.
Oui.
Donc, est-ce que l'on peut transiter par un autre, j'ai changé de lieu, est-ce qu'à ce moment-là, on peut changer également de prestataire de service?
Oui, tout à fait. Alors là, on change de sujet, c'est le côté de ces fameux contrats obsèques. Je ne me prononcerai pas concernant Bordeaux ou la capacité que vous ayez à faire appel à telle ou telle pompe funèbre, hein, ça, il faudrait aller voir eux. Mais en revanche, dans les principes, et vous posez une question très importante parce que beaucoup de gens se la posent et ont des mauvaises impressions. La loi impose que la dimension financière d'un contrat obsèque soit dissociée de la réalisation des prestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des personnes qui vont voir une pompe funèbre, qui viennent chez nous, Service catholique des funérailles, qui par notre truchement souscrivent un contrat obsèque, peuvent 5 ans, 10 ans après, dire en fait je ne veux pas que ce soit cette pompe funèbre qui s'occupe de mes obsèques. Ce n'est pas un problème. Toutes les dispositions financières qu'ils ont prises sont intactes et il suffit de dire à l'organisme qui gère les sous, eh bien, dorénavant, c'est telle pompe funèbre et je change telle volonté. Et on peut tout changer, les volontés, la loi l'impose. Hein. On peut changer son cercueil, on peut changer d'une crémation à une inhumation ou l'inverse. On peut changer les lieux si on a déménagé. On peut dire je voulais des obsèques religieuses, j'en veux plus. Ou je voulais des obsèques civiles, maintenant je voudrais qu'elles soient religieuses. Tous les éléments concernant les prestations peuvent être changés indépendamment de la partie financière.
Je remercie monsieur. Mon père est mort il y a une vingtaine d'années et je l'ai gardé à la maison. Et il n'y a pas eu de préparatif. Hein. Je l'ai gardé 4 jours à la maison. Il a été enterré le 4e jour. Et je ne sais pas, maintenant il y a des préparatifs. Autrefois, il n'y en avait pas. Les gens restaient à la maison. Et c'est pour cela que je ne comprends pas.
Alors, effectivement, on évolue de ce côté-là, mais même nos logements à nous évoluent. Hein. En ce moment, on parle de la température des maisons, du froid par rapport au coût de l'énergie. Mais garder un corps à la campagne l'hiver il y a 50 ans, ben, c'est pas pareil que garder un corps dans un appartement à Toulon aujourd'hui. Donc, ces réalités ont un peu changé. La capacité de la société à intégrer l'évolution du corps d'un mort a aussi changé. Donc la loi n'impose pas de faire des soins au sens fort quand il y a un décès à domicile, mais moi en tant que pompe funèbre, je dis clairement, je considère que c'est nécessaire de le faire, tant pour une raison un peu sanitaire, soyons crus, mais aussi pour les personnes elles-mêmes, parce que voir le corps de celui ou celle qu'on aime évoluer pendant les 3 ou 4 jours qui précèdent les obsèques, c'est quand même quelque chose qui peut nous faire mal. Et autant optimiser toute cette période, si vous voulez.
Je remercie infiniment, messieurs. C'est très, très, très important, cette émission est vraiment, comme toute celle de Radio Maria, très, très importante. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre.
Au revoir,
merci
madame.
Beaucoup, au revoir, madame.
Merci, Monique.
Merci beaucoup. Au revoir, Sandra. Merci.
Au revoir. Messieurs. Alors, peut-être une question très pratique. En première partie d'émission, Jérôme Bertrand, vous avez souligné l'importance de se pencher sur cette question des funérailles, de ce que l'on souhaite pour soi. Comment concrètement préparer ces funérailles? Alors, vous avez également souligné en répondant à Monique qu'on peut changer d'avis sur les dispositions. Et je pensais notamment aux cas de personnes en activité. La vie professionnelle aujourd'hui ne nous garantit pas de rester au même endroit tout au long de notre carrière. Donc concrètement, comment se passent ces préparatifs anticipés et de quelle manière on peut changer les dispositions le temps voulu?
Alors, le terme générique de tout ce sujet, c'est ce qu'on appelle en France le contrat obsèque. Hein. Dans le terme de contrat obsèque, forcément, on imagine contrat, on imagine sous disposition financière. La préparation de ces obsèques comporte deux volets. L'une, c'est bien sûr cette question financière, mais l'autre, qui pour moi doit être première, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux comme obsèque? Parfois, j'ai des gens qui viennent nous voir et qui me disent... combien ça coûte des obsèques? Et je leur réponds, votre question, c'est un peu comme si vous me disiez combien ça coûte un logement à Rouen. Je vais leur dire, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un studio de 20 mètres carrés ou est-ce que vous voulez une maison avec jardin et une piscine? Si vous voulez, donc les obsèques vont être financièrement très différentes suivant que j'habite dans une ville, je veux être enterré dans cette ville et j'ai déjà une concession familiale dans cette ville, ou alors j'habite dans une ville, mais je voudrais être enterré dans mon village d'origine, à l'autre bout de la France, etc., etc. Est-ce que je veux faire une annonce dans un journal? Les journaux locaux, les annonces vont coûter entre 300 et 500 euros. Les journaux nationaux, ce sera plutôt entre 800 euros et 1000 et plus. Si vous voyez, tout ça, ça a des impacts financiers qui sont bien sûr fondamentaux. Le fait de garder un défunt à domicile ou pas va aussi changer les choses. Donc, première question pour moi à se poser, c'est soi-même qui devons nous-mêmes devons la poser, peut-être en parler autour et en parler à des pompes funèbres qu'on va voir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite pour mes obsèques? La deuxième étape importante, c'est d'en parler à ses proches. Je vous parlais de ces cadeaux empoisonnés que font certaines personnes avec la plus grande générosité, le plus grand cœur, en disant « je veux ça pour pas embêter mes enfants ». Et finalement, parfois les enfants vont avoir un avis tout à fait différent sur la question, parce que c'est eux qui restent, c'est eux qui ont besoin de ce lieu de mémoire, c'est qui ont besoin de tout ça. Et enfin, la troisième phase, ça va être la phase des finances, être sûr que le jour venu, on ait... la possibilité d'assumer la charge financière souvent importante. Hein. Les obsèques en France, on considère que ça coûte au minimum de l'ordre de 3 000, 3 500 euros, disons 3 000 euros, et ça peut monter jusqu'à beaucoup, beaucoup plus, surtout s'il y a des changements de région, etc. Et vous voyez, quand on écoute la radio, quand on écoute les médias, etc., on entend souvent le contrat obsèque uniquement sous son angle financier. Venez chez moi, et je vous ferai un contrat pas cher pour vous ayez un capital de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle un produit financier. Les banques, les assurances, les mutuelles, il y a beaucoup d'organismes financiers qui peuvent les proposer. Derrière, il y a des prestations, et donc il faut quand même avoir une idée de ce que c'est. Donc pour répondre à votre question de manière plus courte, un, réfléchir soi-même à ce qu'on veut. Deux, je conseillerais d'aller voir des pompes funèbres, peut-être plusieurs, pour voir dans lesquelles on aura confiance, pour leur exposer, pour voir ce qui est possible ou pas, pour réaliser parfois que ce qu'on veut n'est pas réalisable, etc. Et définir l'espèce de portrait robot de ces obsèques, de le chiffrer pour voir combien ça coûterait, d'en parler un peu avec sa famille, et une fois que c'est validé, de faire un contrat financier qui peut être fait via une pompe funèbre, qui peut être fait avec sa banque, qui peut être fait avec sa mutuelle, etc.
Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit d'Eliane. Eliane, c'est à vous.
Bonjour, Eliane.
Merci.
Bonjour. Eliane.
Voilà, je voudrais savoir, je suis née en Algérie, à Oran. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est l'indemnification de embrasser les pieds d'un mort. Pour que, c'est vrai, chez nous on faisait ça. Et quand j'ai perdu mon mari, aujourd'hui ça va faire 25 ans, justement, je pensais trouver, il était à l'archer, j'ai cherché des pierres partout pour trouver des pierres pour mettre aux pieds de mon mari. Et alors, quand j'étais en Algérie, c'est les grands-mères, des sœurs de mon grand-père, qui m'ont dit, Eliane, embrasse les pieds de papa et tu verras que tout partira. Alors, je l'ai fait, j'ai fait faire à mes enfants la même chose, mes deux garçons qui étaient avec moi. Dès que mon mari est décédé, il est décédé le 1er février. Toute sa journée longue, ça a été la journée de Don Bosco. Et mon mari s'était installé. Alors, et moi aussi, voilà. Je voudrais savoir quelle c'est la signification, ça, là. Voilà, merci.
Alors, dans ce que vous dites, pour moi, embrasser les pieds ou pas les pieds, c'est une question de tradition, peut-être une question tout simplement d'expression orale. En revanche, pour moi, derrière cette expression embrasser, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, l'importance de la visite aux défunts. Je crois effectivement que quand on va voir un défunt, il ne faut pas hésiter à lui caresser la main, il ne faut pas hésiter à lui déposer un baiser sur le front, et il ne faut pas hésiter à lui faire une caresse. Parce que on est des êtres de relation, nous sommes des êtres incarnés et nos sens, y compris notre toucher, sont des moyens de communication, des moyens d'expression et des moyens aussi de recevoir. Christiane Cacret dit, il y a une expression populaire qui est « quand j'embrasse un mort, je n'en rêve plus ». C'est cette expression qui dit quand je vais... le voir, quand je vais au contact de cette réalité, quand je laisse mon cœur s'exprimer par une caresse, par un baiser, ou tout simplement par un regard, eh bien, je suis aidé à intégrer cette réalité et je suis aidé pour ce qu'on appelle couramment la démarche de deuil, pour faire son deuil, pour vivre son deuil. Je suis aidé à être capable de passer de ce moment de choc initial, j'ai perdu mon mari, ma femme, mon enfant, mon papa, ma maman, qui crée un choc, qui nous bloque, et ben je suis capable de passer de ce temps-là à un temps où j'ai comme une charge dans un sac à dos, c'est ce poids que j'ai, cette réalité, il est mort, elle est morte. Et en même temps, et ben je suis capable quand même d'avancer, de rêver de demain, d'avoir des projets pour demain. Même une personne que je connais, Laure Leslie, elle parle même de la sublimation de ce fameux sac à dos là. Et à la fin, peut-être que ce sac à dos, il va devenir une aide pour nous pour avancer. C'est comme s'il lui poussait des ailes, quoi. Et donc, le souvenir de mon père, de mon grand-père, de mon mari, de ma femme, bien sûr, est une douleur énorme, une espèce de poids qui m'empêche de marcher. Et puis en même temps, après, je suis nourri par ce qu'il m'a donné, par ce que j'ai reçu. Et peut-être que c'est le souvenir et la présence spirituelle de cette personne autour de moi qui va m'aider. Donc pour moi, pour votre expression « embrasser les pieds », je retiendrai « embrasser la personne qui est décédée » et je la mets vraiment sous cet angle de visiter le mort et de faire face à cette réalité de cette mort avec tout mon cœur.
Par contre, je voudrais vous poser une question. Parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand mon mari est décédé, le lendemain, nous avons été préparer les obsèques avec mes enfants. Et on m'a dit, on ne trouve pas le corps de votre mari. Bon. Waouh.
Ciel.
C'est passé. Alors, finalement, une fois qu'on a tout arrangé, il devait être presque 1h de l'après-midi. Il dit, ça y est, on a trouvé le corps de votre mari. On s'est trompé à rapport le nom. Bon, c'est bon. Mais par contre, je rêvais mon mari de dos et nu. Mon mari, je le rêvais de dos et nu. Jusqu'à qu'un ami de mon mari qui est arrivé, qui venait de... C'était un Breton. Et qui me dit... Eliane, je ne viens qu'appeler à l'hôpital. On me dit on me dit rien. Alors je dis non, Edouard, il est mort. Il me dit... Mais parce qu'on savait que dans l'état de mon mari, il y avait 9 personnes. 9 personnes.
Vous voulez dire qu'il y avait deux autres personnes qui étaient décédées au même moment?
Voilà, voilà. Et alors, cette personne m'a demandé, écoute-moi, est-ce que c'était le premier des neuf? Ah, j'ai dit, ah, ça je sais pas. Mais si c'est le premier, si on a fait quelque chose à mon mari, sans me le dire, j'accepte. Ça a été fini, j'ai pu rêver mon mari nu et de dos.
Alors, merci beaucoup, Eliane, pour votre merci. Témoignage. On arrive au terme de l'émission. Merci à vous, Jérôme Bertrand et Étienne Devara, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler du service catholique des funérailles.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était une émission avec Jérôme Bertrand et Étienne Devara sur le service catholique des funérailles, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr, rubrique sociale.